Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Genevieve. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission très spéciale en compagnie de nos journalistes de choc. Margot, Johan, Nicolas et moi-même Justina. C'est un interview grand format que nous vous présentons tout de suite car nous avons la chance de recevoir une personnalité romande aux multiples facettes. Fondateur du plus grand festival open air de Suisse, actif en politique en Brigante en 2016, un troisième mandat consécutif de syndic de la ville de Nyon, célèbre pour ses magnifiques chemises à carreaux, je nomme Monsieur Daniel Rossella. Monsieur Rossella, bonjour.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulions vous proposer un petit quiz pour vous connaître un peu mieux. Êtes-vous prêt ?
Allons-y.
Si vous deviez être un plat de cuisine, vous seriez ?
Un T-bone steak.
Pourquoi donc ?
Parce que j'aime bien la viande et puis j'aime bien manger un T-bone steak bleu grillé sur un feu de cheminée. Alors c'est pas vegan, je sais, mais c'est très bon.
Si vous étiez un instrument de musique ?
Certainement le piano. J'ai strictement aucun talent pour jouer d'un instrument de musique. D'ailleurs, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas jouer de rien. J'ai essayé la guitare basse, mais j'étais nul. Même pourtant que la guitare basse est considérée comme un instrument assez facile. Donc vraiment aucun talent là, de ce côté-là. Par contre, j'aimais beaucoup écouter la musique et aller voir des concerts. Et si on veut avoir un rôle dans la musique et puis qu'on n'a pas de talent, eh ben, une des solutions, c'est soit de s'occuper de la sonorisation, des éclairages, ou d'être organisateur. C'est ce que j'ai choisi.
Intéressant. Si vous pouviez devenir champion olympique, ça serait dans quel sport ?
J'aime bien le tennis, mais avec Federer, ça serait assez difficile. Je suis un passionné de hockey sur glace aussi. Le hockey, c'est un sport d'équipe, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, j'hésiterais vraiment entre le tennis et le hockey. Si je devais en retenir qu'un, ça serait le hockey sur glace.
Les vacances, c'est plutôt plage ou montagne ?
Alors, plage, sûrement pas. Pour certains, c'est un rêve, la plage déserte. Pour moi, c'est l'angoisse totale, quoi. Donc, j'ai vraiment mais aucune envie de faire des vacances à la plage. En plus, pour moi, j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Ça veut pas dire que je suis pas des fois fatigué, hein. Je ressens pas un besoin d'avoir des vacances où je fais rien. D'ailleurs, je pense que je m'ennuierais prodigieusement. La montagne, oui. Souvent, j'allais, après le festival, faire un peu une période de ressourcement, comme on dit. Mais en fait, j'allais à Vercorin. J'ai un ami vigneron qui me prêtait son chalet. Et j'allais faire de la marche en montagne. Et quand j'étais avec mes enfants qui étaient plus jeunes, ben, c'était assez sympa. Des fois, il fallait les motiver, bien sûr. Mais on a fait quelques belles marches en montagne en été ou le ski en hiver. Mais j'avoue que je n'ai pas le virus. Donc si je dois vraiment choisir, je pense que j'irai plutôt à la montagne.
C'est la semaine de la lecture romande. Quel est votre livre de chevet actuel ?
Alors, je l'avoue sans honte, je viens de lire Astérix en Italie, en transitalique.
Si vous pouvez revenir dans le temps, à quel concert du Palio aimeriez-vous assister ?
C'est étonnant parce qu'en fait, je suis rarement dans le passé. Je suis toujours plutôt dans l'instant présent et dans le prochain. Je suis plutôt en train de penser au concert du prochain Palio Festival. Mais c'est sûr qu'il y en a qui m'ont marqué. Si on doit les revivre, en fait, l'émotion, elle n'est pas la même. C'est pour ça que de revoir un concert à l'écran, par exemple, s'il a été filmé, ça me procure assez peu d'émotion. Maintenant, pour répondre à la question, c'est sûr qu'il y a eu des moments assez incroyables. Je pense à Neil Young, qui, il y a 3 ans, a joué. Et où, tout d'un coup, il y a eu, de manière assez inattendue, un orage. Et il chantait la chanson « Like a Hurricane », qui est comme un ouragan. Et il a fait jouer pendant, je pense, 25 minutes ce morceau. Il l'a rejoué et tout. Et la météo se déchaînait. Et au bout d'un moment, le public commençait à être Trump. Et puis des gens, ils sont partis et il restait beaucoup, beaucoup moins de spectateurs devant la scène. Et lui, il a continué. Après, il était Trump, mais Trump, c'était incroyable. Tous les musiciens, il y avait de la pluie qui allait sur la scène. Et c'était un moment d'anthologie. Et moi, je suis après allé vers la sortie de scène. Et quand il est sorti, il a dit, mais c'est comme une douche. Comme si je sortais de la douche. C'est un moment assez incroyable. Il y en a un autre, c'était Paul Simon. Là aussi, lié à la météo, Paul Simon était sur scène et tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Celle-là, elle était attendue, mais pourtant, elle est arrivée assez forte. Et la scène n'était pas totalement étanche comme on aurait pu l'espérer, ce qui fait qu'il y a de l'eau qui est tombée sur des consoles de sonorisation, sur des équipements techniques, et ce qui fait que tout d'un coup, les micros, les uns après les autres, se sont arrêtés. Et là, il ne se passait plus rien. Et il y avait tout le public qui était stoïque parce que c'était seulement de la pluie, donc le public est resté, pas comme pour Neil Young où c'était vraiment l'orage. Et là, les gens avaient quitté le terrain. Donc le public est resté en se demandant ben, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Et là, je suis allé dans les loges et j'ai discuté avec Paul Simon. D'abord, il m'a dit oh, je suis vraiment désolé ce qui arrive. Alors qu'il y était pour rien, c'était vraiment plutôt notre faute que la sienne. Et puis, j'ai dit bon, ben, on va regarder ce qui se passe. Et ensuite, on m'a dit on pourrait recommencer avec 2-3 micros. Et je lui ai demandé si. Il était d'accord de remonter seul sur scène parce qu'on avait pu brancher le micro guitare et le micro voix. Je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord de remonter sur scène et de jouer quelques morceaux seul à la guitare en attendant qu'on puisse sécher les autres consoles de mixage et faire en sorte que tout l'orchestre puisse être après sur scène. Il m'a dit oui, volontiers, pas de problème. Et il est remonté sur scène seul. Et c'était un moment vraiment extraordinaire. Il y avait une intensité émotionnelle hors du commun. Et ça, c'était vraiment un des souvenirs marquants des nombreux concerts que j'ai vus à Paléo.
Caribana ou Montreux Jazz ?
C'est difficile à dire parce que ce sont deux événements vraiment très différents. J'ai vécu des moments très intenses à Montreux parce que j'ai eu la chance de vivre ce festival depuis pas tout à fait ses débuts, mais presque. J'ai d'ailleurs couvert deux ou trois fois le festival de jazz de Montreux comme journaliste. Je faisais des critiques des concerts. Et puis, il y a eu des moments très, très intenses, assez extraordinaires. Caribana, c'est, je dirais, une fête. C'était à l'origine presque une fête de village qui a inventé un nouveau modèle et qui est très sympathique. Il y a aussi des moments intéressants. Il y a eu un certain nombre de concerts qui était fort. Il y a une proximité du public avec la scène qui est aussi quelque chose d'assez marquant. Mais je pense que j'ai plus d'attache avec Montreux parce que j'ai été à peu près à toutes les éditions depuis 1971.
On dit qu'il faut éviter de parler politique entre amis. Est-ce possible quand on est syndic ?
Bon, il y a des sujets tabous dans certains endroits. C'est vrai qu'on dit que pour qu'un repas de famille soit réussi, il faut éviter un ou deux sujets qui fâchent. Donc, soit des sujets, des secrets de famille, c'est pas le moment d'en parler. La politique, la religion, mais je peux en inventer d'autres. Hein. Mais ça m'embête pas de parler de politique quand c'est un partage et puis que c'est fait entre des gens qui ont un respect pour l'engagement de l'autre et puis qui sont capables d'écouter sans juger ce que peuvent penser des gens.
Si vous pouvez passer une soirée en tête-à-tête avec n'importe qui, mort ou vivant, vous choisirez qui ?
C'est sûr que même si la réponse est un peu convenue, il y a un personnage qui m'a profondément marqué, c'est Nelson Mandela. J'ai eu la chance je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai eu la chance d'assister à un festival où il était l'organisateur. En fait, c'est sa fondation qui organisait ce festival pour lutter contre le sida. et il était à ce moment président de l'Afrique du Sud. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que ça fait partie des personnages qui ont un charisme incroyable. Il y en a peu que j'ai pu voir avec un tel charisme. J'étais dans le stade et il y avait vraiment des artistes très très réputés. Il y avait Queen, Beyoncé, Cat Stevens qui a depuis changé de nom. Il y avait toute une série d'artistes vraiment de très haut niveau. Et à un moment, tout d'un coup, il y a eu une sorte de rumeur. Et c'est le moment où Nelson Mandela est arrivé dans le stade. Et les gens qui regardaient la scène se sont tous tournés vers la tribune principale où il est arrivé. Et j'ai senti quelque chose d'incroyable. Il y avait peut-être 40 ou 50 000 personnes. J'ai le sentiment que toutes ces personnes avaient d'un coup la chair de poule, avaient les poils qui se hérissaient, étaient en train de vivre quelque chose. Et il y avait des noirs, des blancs, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Et tous l'ont regardé et avec un respect, mais colossal. C'était incroyable. Et j'ai senti une ferveur, une affection, un respect que je n'avais jamais vécu autrement. Et puis, pour reparler de Nelson Mandela, pourquoi il a eu ce respect pareil, c'est un peu son histoire. J'ai emmené mes enfants à Robben Island visiter l'endroit où il a été en prison. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, dont 17 ans dans une cellule extrêmement petite, spartiate. Et il pouvait sortir la journée pour casser des pierres, casser des cailloux. Et l'enclos de la cour de la prison où il était ne permet pas de voir autre chose que le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun signe de la nature. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est au printemps, en été? Donc, il n'y a plus aucune couleur. Et il a passé 17 ans à cet endroit. Et en sortant de 17 ans dans cette cellule, mais c'est incroyable, on ne peut pas imaginer ça. Et Nelson Mandela, il a après été en résidence surveillée et son discours, ça a été « il faut pardonner ». Et être capable, après tout ça, qu'on lui dise « il faut pardonner », c'est un saint, ou en tout cas un demi-saint au moins. Et c'est la raison pour laquelle je choisirais Nelson Mandela si j'avais la chance, par je ne sais quel miracle, de pouvoir passer une soirée avec lui.
Merci d'avoir si bien joué le jeu. À présent, on écoute Dommage de Big Flo et Oli et je passerai la parole à Margot pour la suite de l'interview.
Louis prend son bus comme tous les matins. Il croisait cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'était la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras,
c'est pas pour la faire danser.
Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse,
elle s'est pas relevée.
Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Bonjour Monsieur Rossella, je voulais vous poser quelques questions sur les débuts du Paléo Festival. Nyon, 1976, votre premier festival, d'où vous est venue cette idée? D'autres festivals comme le Montreux Jazz ou Woodstock aux États-Unis vous ont-ils influencé?
Alors l'idée d'un festival est venue de manière assez particulière et en même temps de manière tout à fait naturelle. Bien sûr qu'on était un peu influencé par Woodstock, mais il faut savoir que Woodstock a été un événement marquant sur le plan social et politique, sur le plan musical. Ça a été quelque chose qui a laissé des traces incroyables, mais sur le moment... Il faut savoir que c'était considéré comme un désastre au niveau de l'organisation, puisque l'armée a dû intervenir. Il y avait beaucoup plus de monde qu'attendu. Les gens n'ont pas voulu payer l'entrée. Ils ont démoli les barrières ou forcé tout ça. En plus, tous ceux qui étaient venus en voiture, ben, il y avait un bouchon, il y avait une route pour y accéder et ils ont laissé la voiture et ils sont partis. Donc les secours pouvaient plus arriver, la nourriture pouvait plus arriver. C'est donc à la fin, ce sont des hélicoptères de l'armée qui sont intervenus pour et ça a été déclaré zone sinistrée. Évidemment, pour les Suisses qui aimaient bien les choses organisées, c'était pas un modèle d'organisation, je dirais. Mais c'était un événement marquant et nous, ce qu'on s'est dit, on allait faire Woodstock en beaucoup plus petit mais mieux organisé. Montreux, bien sûr, j'étais allé voir quelques concerts à Montreux et je trouvais que c'était bien. Mais pour moi, on devait faire quelque chose qui était plus festif, avec une dimension sociale plus importante. Raison pour laquelle on a imaginé depuis le début quelque chose d'un peu différent. J'étais aussi influencé par des festivals que j'avais vus en Angleterre, dont un festival à Cambridge. Mais pour arriver à la formule du festival, il faut que je remonte un petit peu avant. J'ai organisé mon premier concert, j'avais 19 ans, et j'étais, pour payer mes études d'ingénieur après avoir fait un apprentissage de mécanicien électricien, je travaillais comme animateur socioculturel à mi-temps dans un centre de loisirs à Nyon, une sorte de maison de jeunes. Je travaillais à peu près tous les soirs et tous les week-ends, et puis j'essayais d'avoir des activités qui soient motivantes pour des jeunes entre 13 et 17 ans, 18 ans. Et puis, ils n'étaient pas motivés par grand-chose, à vrai dire. Donc, d'abord, j'essayais d'élargir leur horizon musical en leur faisant écouter d'autres choses que ce qu'ils écoutaient du matin au soir et du lundi au dimanche. Et puis, ensuite, l'idée du concert, c'était... que chacun participe à une activité. On en avait d'autres, il y avait un labo photo, il y avait un studio son, il y avait un atelier de sérigraphie, on faisait de l'initiation aussi bien au jeu d'échecs qu'à la voile, à la plongée sous-marine, au hockey sur glace ou à d'autres activités sportives. Mais là, pour le concert, on avait imaginé qu'il y avait une affiche qui serait faite en dessinée d'abord, faite en sérigraphie, qu'on allait faire la promotion, qu'on allait... préparer le concert, qu'il y a des gens qui allaient contrôler les entrées. Il y avait des jeunes qui disaient qu'ils ne payaient jamais nulle part. C'était les meilleurs skieurs de toute la région. Donc, c'est à eux qu'on a demandé de contrôler les billets en disant qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre sans payer. Puis après, il y avait le nettoyage, le rangement, même le repas à la fin. Et ce que j'ai vu, c'est que ces jeunes ados avaient des étoiles dans les yeux quand on a organisé ce concert. Ils m'ont tout de suite dit il faut en faire d'autres. Alors j'ai organisé d'autres concerts, mais malheureusement c'était difficile parce que quand c'était des artistes qui n'étaient pas très connus, il n'y avait jamais assez de monde. Et si on faisait des artistes connus, on n'avait pas une salle assez grande. Donc, il y avait quelques difficultés au niveau financier. Bon, au bout d'un moment, on accumulait quand même quelques déficits. Et puis, sur le plan économique, c'était difficile parce que quand on allait dans une salle, on avait peu de possibilités d'avoir des recettes différentes que seulement les entrées. Parce que c'était le concierge qui vendait les cafés ou les bières à l'entracte, la femme du concierge qui faisait les sandwichs ou le vestiaire, quelqu'un qui venait vendre les disques. Enfin bref, sur le plan économique, ce n'était pas très bon. Donc la réflexion, c'était de se dire qu'en faisant un festival, on pouvait, sur le plan artistique, avoir des têtes d'affiche qui allaient jouer le rôle de locomotive et qui nous permettraient de présenter des artistes peu connus devant beaucoup de monde. Et sur le plan économique, ça nous permettait de mieux maîtriser les recettes. Et on a commencé le festival en 1976 avec un petit modèle, en se disant qu'il fallait essayer d'abord petit. Et ensuite, l'année d'après, en 77, on était en plein air, 16 500 spectateurs. L'année d'après, 33 000. L'année d'après, 45 000. Et c'est comme ça qu'est né le festival.
Aviez-vous imaginé à l'époque que le festival existerait encore 40 ans plus tard ?
C'est difficile d'imaginer quand on lance un projet de ce type, d'abord qui va s'inscrire si bien dans la durée. Et je dirais que le festival, c'était un rêve, mais que la réalité d'aujourd'hui est bien plus belle que le plus beau rêve qu'on avait à l'époque.
Quel obstacle avez-vous rencontré lors des premières éditions ?
Alors c'était assez compliqué, mais en fait, ça ne nous faisait pas si peur. On avait une conviction inébranlable, un optimisme inoxydable, et on se disait qu'il fallait absolument y aller. Bien sûr qu'on avait des gens qui étaient sceptiques, des gens qui ricanaient en disant que ça ne marcherait jamais. Par chance, les autorités étaient plutôt sceptiques que méfiantes. Donc, ils nous ont fait confiance en pensant que ça ne marcherait pas vraiment. Comme j'avais déjà organisé pas mal de petits concerts, ils savaient que finalement, je faisais quand même un travail assez sérieusement. Et le principal obstacle, évidemment, c'était l'argent, parce qu'on avait, pas de thunes, pas d'expérience, ou peu en tout cas, pas d'appui politique. On était au premier festival, j'avais 22 ans, on était tous des gens entre 18 et... On avait un vieux de 25 ans qui était avec nous, mais on était vraiment jeunes. Et évidemment, pour trouver des sous, ce n'était pas facile. Et il y avait 11 banques à Nyon, et j'ai fait le tour de toutes les banques. On avait besoin de 50 000 francs. Et j'ai pas osé demander 50 000 francs pour payer des avances et des cachets d'artistes, enfin, payer des fournisseurs et tout. Et j'ai demandé 20 000. Et sur toutes les banques, il n'y en a aucune qui m'a accepté, sauf une qui a dit oui. C'était la SBS, pour 5 000 francs, et on a dû aller à Troyes pour signer une caution solidaire chez le notaire. Et comme le copain de 25 ans, le vieux, venait de se marier, sa femme a dû aussi venir pour signer ça chez le notaire. Et non seulement c'était compliqué d'obtenir l'argent, mais il nous prêtait après une longue leçon de morale, en nous disant qu'on était des jeunes guignols, etc., qu'on était, fallait être sérieux et tout. Il y en a même un qui m'a dit « Vous devez commencer par mettre une cravate si vous voulez qu'on vous prête de l'argent. » Et je me suis juré que jamais j'aurais besoin de mettre une cravate pour obtenir un prêt auprès d'une banque. Et ce qui est assez amusant, c'est que quelques années après, il ne restait plus que 4 banques et que cette SBS, Société de Banque Suisse, avait disparu.
D'accord. Imaginez si à Genolier, on aurait envie de faire un festival. Quels seraient vos conseils ?
Alors d'abord, pour faire un festival dans le monde d'aujourd'hui, où il y a un nombre incroyable de manifestations de ce genre, je pense qu'il faut vraiment trouver quelque chose d'original et essayer de viser sur une identité forte. Ça ne sert à rien de copier les autres, parce que tout a déjà à peu près été fait. En plus, il faut être réaliste par rapport à non seulement à la concurrence, mais à la capacité d'un terrain d'accueillir des gens, à la possibilité des voies d'accès, de faire venir des spectateurs. À Genolier, il y a la chance d'avoir le train, il y a quand même 2 ou 3 routes d'accès, mais ça serait très difficile, à mon avis, d'imaginer un festival de grande ampleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme terrain disponible ou pour mettre soit des tentes, une tente ou plusieurs. Mais le plus important, c'est qu'il y ait de la passion. Qu'il faut quelqu'un qui ait vraiment la passion pour un style de musique, ou ça peut être du cirque, ou ça peut être quelque chose. Il faut que ça soit beaucoup plus qu'une suite de concerts ou une suite de spectacles. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une dimension sociale de l'événement. Et si à Genolier, il y avait une idée de faire un festival, il faudrait être sûr que tous les gens de la région aient envie de venir à ce festival. Donc il faut de la passion, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi du réalisme. Il faut courir après un idéal, mais en même temps être pragmatique pour bien prendre en compte tous les éléments techniques, financiers qu'il faut maîtriser pour être capable d'organiser un festival. Donc, puis l'autre, ben, c'est de commencer petit, parce que quand on fait quelque chose en petit, les erreurs ne sont pas mortelles. Ça veut dire que ça permet de voir s'il y a un potentiel, de sentir qu'est-ce qui peut être fait, et puis de corriger les erreurs, parce que c'est impossible de faire du premier coup quelque chose de réussi. De toute façon, il y aura des choses qui ne vont pas marcher.
Merci, Monsieur Rossola. Maintenant, on marque une petite pause en écoutant Impossible de James Arthur, et on se retrouve tout de suite après avec Nicolas pour la suite de l'interview.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing words. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead.
Radio Genolier, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette première partie d'interview avec M. Daniel Rossella. Vous pouvez retrouver dans une semaine la suite de l'interview sur radiobus.fm. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.